Bien chers amis, ce monde est fatigant. Partout où l'on passe, on ne voit que saleté. Dès qu'on tend l'oreille, on n'entend qu'insanité. Dès que l'on marche, on foule des que vous connaissez. On tourne à droite pour l'aide. On se tourne à gauche pour miasse. On va de l'avant, mauvaise senteur. On recule, ah, on tombe encore sur ce que l'on ne veut pas voir. Ce monde est fatigant. Il nous faut changer. Il nous faut nous en aller. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas partir de nous-mêmes. Nous devons attendre que notre maître vienne nous prendre avec lui, vienne nous chercher. Dans l'intervalle, que faut-il faire? Sinon que vivre l'évangile, vivre selon l'évangile, vivre par l'évangile, afin que nous soyons plus ou moins réconfortés dans l'esprit de notre intelligence et même dans notre corps affaibli. La dévotion, un moyen spécial à nous envoyer par Dieu en vue de nous soulager sur cette terre de douleur. C'est pourquoi, week-end après week-end, le pasteur Verne, ainsi que ses collègues, vous la présentent. Et nous sommes convaincus que vous en êtes contents. Tout de même, en attendant que le Seigneur vienne, et nous devons prier pour qu'il vienne au plus tôt, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue à ce moment très spécial. Réaliser l'impensable. Tel est le sujet soumis à notre méditation pour maintenant. L'impensable, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne monte pas facilement à l'esprit, ou bien qui ne monte jamais à l'esprit, ou bien qui ne peut monter à l'esprit. Et texte d'étude à nous proposer, c'est d'abord Ésaïe 50. Versets 4 à 10. Prenons-en lecture. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Qui comparmi vous craint l'Éternel, qui écoute la voix de son serviteur? Qui marche dans l'obscurité et manque de lumière? Qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Hélas. Oui, hélas. L'impensable à réaliser. Réaliser l'impensable. Dans ce texte que nous venons de lire, quel est l'impensable? Qu'est-ce qui ne monterait jamais à l'esprit? En fait, d'abord le verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Vous le savez bien. Quand on vous ouvre l'oreille, c'est pour entendre, oui. Mais de qui parle-t-on? Du serviteur de l'Éternel, outragé et secouru. Qui est ce serviteur de l'Éternel? Son nom n'est pas cité. Cependant, ses actions, son comportement, son attitude est bien précisé. Et alors, si nous pouvons trouver dans l'histoire de l'humanité en général, un homme qui est accompli ce qui est écrit dans Isaïe 50, verset 4 à 11, c'est bien de cet individu-là qu'on parle, et c'est lui, le serviteur de l'Éternel, outragé et secouru. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Généralement, quand l'oreille est ouverte, c'est pour écouter, pour entendre. Mais si le serviteur pense avoir pu résister ou bien se dérober, c'est que les paroles entendues seraient vraiment désagréables à l'esprit. Ce seront des paroles malsaines. En outre, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Ça, c'est impensable. Livrer son dos à ceux qui le frappent? Non. L'impensable encore, c'est « J'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Arracher la barbe, et puis on donne la joue. « Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Voici encore l'impensable. « Mais du Seigneur l'Éternel m'a secouru. » C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. Oh! Si nous constatons bien, nous remarquons que les mauvais traitements vont graduellement. Premièrement, l'oreille a été ouverte pour écouter les insanités. Deuxièmement, et le dos a été livré pour être frappé. Troisièmement, les joues ne se sont pas retirés pour recevoir des crachats. Quatrièmement, les ignominies, la même chose. Et puis, au degré suprême, on allait déshonorer l'individu. À la vérité, lui cracher au visage, lui arracher la barbe, lui adresser des paroles infâmes, c'est déjà du déshonneur. Mais l'humanité pourrait aller loin, aller plus loin, en l'exposant tout nu devant ses bourreaux, devant ses malfaiteurs. Mais heureusement, l'Éternel ne l'a pas permis. Et il est dit, le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. Ensuite, l'impensable, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Le visage est devenu dur. Ici, on voit des calottes, des gifles, des coups au visage. Les recevoir. Hein? Laisser le visage tranquille, comme si c'était un caillou, afin de les recevoir. Oh, ça c'est l'impensable. Tout de même, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Ah, ici, il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a personne qui peut comparaître un jugement avec cet individu. Il est le seul de son genre et en son genre. C'est pourquoi il a donné la gabelle. Qui disputera contre moi? Comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? En effet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis, au verset 11, voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Certainement, vous allez venir arrêter, bien saisir, bien surprendre cet individu ayant des torches durant la nuit. Donc, on est obligé d'apporter des torches, d'apporter du feu. Et nous savons que tout ça s'était produit pour Jésus de Nazareth. Oui, lui, il a réalisé l'impensable dans Ésaïe chapitre 50, verset 4 à 11, disant, selon Ésaïe chapitre 4, chapitre 50, verset 4 à 11. Si Ésaïe avait eu l'intention de donner seulement des informations, il aurait fourni tout de suite tous les détails concernant le Messie. Mais dans le but d'enseigner, de persuader et de donner à son public l'occasion de rencontrer le serviteur du Seigneur, il développe un riche tissu de thèmes récurrents sur le mode symphonique. Il dévoile le message de Dieu par étapes, afin que chaque aspect soit saisi en relation avec le reste du tableau. Ésaïe est un artiste dont la toile est l'âme de ses auditeurs. Nous avons vu précédemment dans Ésaïe 49, verset 7, que le serviteur de Dieu est méprisé, détesté. Il est l'esclave des puissants, mais que des rois le verront et ils se prosterneront. Ici, au chapitre 50, nous apprenons que le creux de la vague est profond pour le tendre maître dont les paroles soutiennent les hommes las. Le chemin vers la justice passe par des abus physiques. Oui, bien souvent, nous le savons. Le chemin vers la justice passe par des abus physiques. Nous acceptons mal cette sorte d'abus dans notre culture occidentale moderne. Mais dans la culture du Proche-Orient antique, l'honneur était une question de vie ou de mort pour la personne et son groupe d'appartenance. Si vous insultiez et maltraitiez une personne de cette condition, il valait mieux que vous soyez bien protégé. À la moindre occasion, la victime et son clan ne manqueraient pas de se venger. Rappelons-nous le roi David. Il attaqua et conquit le pays d'Amon pour la seule raison que son roi saisit les ambassadeurs de David, leur fit raser la barbe, la moitié de la barbe, et fit couper leurs habits à mi-longueur au niveau des fesses. Puis, il les renvoya. Mais, dans Isaïe 50, les gens frappent les serviteurs. Ils arrachent douloureusement les poils de barbe et lui crachent au visage. De tels actes ont une portée internationale, cosmique même, la victime étant envoyée par le divin roi des rois. En réalité, quand on compare Isaïe 9, versets 5 et 6, qui parle « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix », on le compare avec Ésaïe 11, verset 1 à 16, à savoir le reste d'Isaïe, un germe qui viendra. Quand on compare ces deux textes avec d'autres passages sur le serviteur, nous découvrons que ce dernier est lui-même le roi, le puissant libérateur. Et pourtant, en dépit de ce pouvoir et de cet honneur, pour quelques raisons inexpliquées, il ne se sauve pas lui-même. C'était si étrange que les gens ne pouvaient le croire. Lorsqu'il était sur la croix, les dirigeants se sont moqués de lui, disant, « Lui qui a sauvé les autres, il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu, qu'il descende de la croix et nous croyons en lui. » Réalisez l'impensable. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mon visage à ceux qui m'arrachaient la barbe et me crachait dessus. Bien-aimé, quel humain accepterait cela si facilement que Jésus de Nazareth? Évidemment, il a dû souffrir, oui, parce qu'il a eu une âme comme nous autres. Toutefois, il a été confiant, car certainement, le Seigneur l'Éternel le secourait. C'est pourquoi, dit-il, il n'a pas été déshonoré. Toucher des personnes impossibles à atteindre. Laf Fouque, chinois chrétien, éprouvait de la compassion pour ceux de ses compatriotes qui étaient devenus esclaves dans les mines africaines. Il désirait leur communiquer l'espérance de l'Évangile, mais comment les atteindre? Il résolut de se vendre comme esclave pour une durée de 5 ans. Il fut transporté à Demerara, où il travailla dans les mines et parla de Jésus à ses compagnons de travail. La foule mourut, mais auparavant, 200 personnes furent délivrées du désespoir en acceptant Jésus comme leur sauveur. Peut-on trouver plus grand esprit de sacrifice? Quel exemple! En réalisant l'impensable, c'est-à-dire en prenant la forme d'esclave, Jésus lui aussi a touché des personnes impossibles à atteindre. Comment alors? Lisons Ésaïe chapitre 52 à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 53 verset 12. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera. Il se lèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Dans son visage était défiguré, dans son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a appris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quel est l'impensable dans ce texte? L'impensable que le serviteur de Dieu, Jésus-Christ, a réalisé. D'abord, quand nous nous rappelons le rôle, la personne et l'origine de Jésus-Christ, nous sommes surpris de lire le verset 2. Il s'est élevé devant Dieu, devant l'humanité, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. En effet, roi des rois et seigneur des seigneurs, prendre naissance dans une crèche à Bethléem parmi des animaux, ça c'est, c'était impensable. En outre, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et nous savons que Dieu est magnifique dans son aspect. Oui, il est merveilleux dans sa personne. Et voici que maintenant, il est venu sans éclat, sans beauté pour attirer les regards. Ça, c'était impensable. Et même, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Impensable. Méprisé et abandonné des hommes. Ah non. N'importe quel homme qui est prévenu que le Seigneur Dieu doit le visiter, il préparera tout ce qui est meilleur dans sa maison en vue de recevoir ce grand personnage. Mais ici, le personnage est méprisé et abandonné. Ça fait impensable. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais depuis quand a-t-il commencé à souffrir? Depuis le jour où il s'est incarné. Car demeurer 9 mois, s'enfermer 9 mois dans le ventre d'un être humain, ce n'est pas chose agréable, surtout quand on est conscient. On est conscient sans avoir de la conscience, c'est-à-dire le Dieu qu'est Jésus n'a jamais perdu conscience. Mais le fœtus qu'il était n'était pas conscient. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, on nous dit tout cela. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté nos douleurs. C'est-à-dire, il nous a remplacés dans toutes nos misères, mesquineries et insanités morales et même physiques. Dieu le fait. Ah, ça, c'est impensable. C'était impensable. En plus, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 8, ou plutôt au verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. C'est encore impensable. Quelqu'un que l'on maltraite, quelqu'un que l'on méprime, que l'on opprime, et qui n'ouvre point la bouche alors qu'il se sent, alors qu'il est convaincu de son innocence. Ah, ma frère Verne, j'aurais tempêté. Oui, j'aurais tempêté. Et puis, on nous dit, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Dieu de confiance, Dieu de puissance, Dieu tout-puissant, qui est enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ça, c'était aussi impensable. En plus, on l'a mis parmi des malfaiteurs. Lui, le bienfaiteur par excellence. C'était encore impensable. En tout cas, tout Ésaïe 53 se joint à Ésaïe 50, versets 4 à 12, pour dire que tout était impensable jusqu'au moment où Jésus a réalisé. Évidemment, Ésaïe 52, 13 à 53, 12, le poème du serviteur souffrant, passage connu sous le nom de poème du serviteur souffrant, oui, comme je viens de vous le dire, confirme la réputation d'Ésaïe comme prophète de l'Évangile. En harmonie avec l'excellence de ce dernier, ce poème surpasse toute autre littérature. Bien que d'une brièveté étonnante, chaque expression déborde de sens profond, révélant l'essence même de la quête inimaginable de Dieu pour sauver une race perdue, plongée dans le péché, à laquelle toi et moi appartenons. Nous n'avons pas ici les paroles les plus douces d'Ésaïe. Il a préparé ses lecteurs en développant le thème du Messie depuis le début de son livre. Suivant le cours de la vie de ce dernier sur terre, le prophète a commencé par sa conception et sa naissance, nous a donné son identité en tant que roi davidique, a expliqué quelle serait son œuvre de restauration en Israël et son ministère discret de délivrance contre l'injustice et la souffrance. Pour Ésaïe, révéler le grand drame du Messie comportait un contraste entre tragédie et exaltation. Maintenant, Le poème du serviteur souffrant touche le fond de la tragédie. Esaïe 52, 13 à 53, premier, introduit ce poème par un contraste frappant. Le serviteur prospérera, il sera exalté, puis il sera défiguré au-delà de toute reconnaissance possible. Ça, c'était impensable. Esaïe 53, verset 2 et 3, commence par les origines et l'apparence ordinaire du serviteur pour nous présenter son chagrin et son rejet. Encore impensable jusqu'au moment de la production. Au verset 10 à 12, le serviteur reçoit la récompense élevée entrevue au début du poème et commence dans Esaïe 52, 13. Avec cette notion supplémentaire, que son sacrifice pour sauver les hommes est voulu de Dieu. Encore impensable. Dieu sacrifia un innocent pour sauver les coupables. C'était impensable jusqu'à ce que la chose se produise. Considérons maintenant la structure en creux ou en valle. 2. Philippiens 2. Pourquoi on dit-on en creux? Parce que Philippiens 2 est venu se placer dans le fond même de Esaïe 53. Et qu'est-ce qui est arrivé? On nous dit que Jésus-Christ s'est présenté comme un simple homme. Et sans égard, sans avoir eu aucune apparence. Ensuite, il a connu l'ignominie jusqu'à subir la mort même de la croix. Créateur, mais non créature. Merveilleux et communiquant du merveille. Beau et partageant sa beauté. Excellent à l'absolu et voulant faire de l'humanité de ses créatures des êtres bons. Dieu a réalisé l'impensable pour nous, les hommes, dans la personne de Jésus-Christ. Esaïe 52, verset 13, mentionne que le serviteur de Dieu est grandement exalté. Puis, sans avertissement, le verset 14 dit que son aspect est tellement défiguré qu'on ne peut le reconnaître comme l'un des êtres humains. Le Nouveau Testament décrit les facteurs qui ont détruit l'apparence de Jésus, notamment des coups de fouet, une couronne d'épines, la crucifixion et, par-dessus tout, le fait de porter les péchés de l'humanité. Le péché n'a pas été destiné à être quelque chose de naturel pour l'homme. Le fait de le porter a donné au Fils de l'homme un aspect inhumain. Mes chers amis, réfléchissons un peu. Pensons par exemple à Job. Celui-ci est brusquement passé d'une position de grande richesse, de grand honneur et de grand pouvoir à celle d'un être misérable, assis sur des cendres, à même le sol, grattant ses plaies douloureuses avec un tesson. Le contraste est si grand que même ses amis ne l'ont pas reconnu tout de suite. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi Job souffre-t-il? Pourquoi le Messie de Dieu doit-il souffrir? Aucun des deux ne le mérite. Tous deux sont innocents. Alors, pourquoi cette souffrance? Examinons maintenant la question posée dans Esaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce sont les deux questions. Elles soulignent le défi qui consiste à croire en quelque chose d'incroyable et nous invite à nous asseoir pour écouter le reste de l'histoire. Mais elles sous-entendent aussi un appel. Dans ce contexte, le parallèle existant entre ces deux questions implique que le bras de salut du Seigneur se révèle à ceux qui croient ce qui est rapporté là. Voulez-vous faire l'expérience de la puissance salvatrice du Seigneur? Croyez-vous donc en son pouvoir salvateur? Oui, je vous invite à croire si vous n'avez pas encore cru. Tout de même, ce qu'il était impossible d'atteindre, c'est-à-dire nous, Jésus les a atteints. Comment? Une plante fragile, apparemment sans valeur particulière, puis méprisée. Telle est la description donnée ici du sauveur souffrant. Impensable avant de l'avoir vu. Esaïe nous fait rapidement passer d'une jeunesse innocente à une existence au bord de l'abîme. Même avec ce qui précède, nous ne sommes pas préparés à nous résigner au sort du serviteur. Au contraire, Esaïe nous a enseigné à chérir l'enfant qui nous est né, le prince suprême de la paix. D'autres le méprisent, mais nous savons qui il est vraiment. Comme l'a dit quelqu'un, nous avons rencontré l'ennemi, et c'est nous. Le serviteur n'est pas le premier à être méprisé, rejeté et à souffrir. Le roi David, par exemple, était tout cela quand il a fui devant son fils Absalom. Mais la souffrance subie par ce serviteur n'est pas la sienne, ni le résultat de son propre péché, pas puisqu'il ne porte ce péché pour un seul, tandis que David, lui, il subissait les conséquences de ses propres péchés. Le Seigneur a fait venir sur Jésus notre faute à tous. La réponse à la question pourquoi est la vérité éprouvante communiquée par Esaïe? À cause de l'amour de Dieu, son Messie a choisi de souffrir. Mais pourquoi? Esaïe enfonce le clou pour compléter l'impensable vérité. Il a choisi de souffrir pour pouvoir toucher ce qu'il était impossible d'atteindre, c'est-à-dire nous. Ceux qui ne comprennent pas considèrent que le serviteur était frappé par Dieu. Tout comme les amis de Job, qui pensaient que ses souffrances étaient dues à ses péchés, et comme les disciples de Jésus lui demandaient, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Ceux qui ont vu Jésus sur la croix ont imaginé le pire. Moïse n'avait-il pas dit, celui qui est pendu est une malédiction de Dieu? Pourtant, tout ceci était voulu de Dieu. Pourquoi? Parce que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Et parce que Dieu l'a fait pour nous, péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Imaginez, en un sens, le Christ est devenu le péché. Il a endossé toutes les villes passions, tout l'avilissement égoïste des milliards d'hommes qui ont habité notre planète. Avec ce déluge impressionnant de misère, rassemblé sur lui et identifié à lui comme s'il était la personnification de tout mal, il s'est offert à l'anéantissement afin d'effacer tous les péchés et toutes leurs conséquences. Le fardeau de culpabilité et de châtiment pour les péchés du monde entier sont tombés sur le Christ à la croix, au même moment, comme l'unique moyen de nous sauver. Ça, c'était impensable. Dans Esaïe, chapitre 53, verset 10, il est écrit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le terme hébreu se réfère à une offrande de culpabilité ou de réparation qui expiait des offenses commises délibérément contre d'autres hommes. Ces péchés ont été soulignés par Isaïe. Le pécheur devait restituer à la personne offensée ce qu'il lui avait pris et payé, en outre une amende avant d'offrir le sacrifice destiné à recevoir le pardon de Dieu. Dans le cas d'une mauvaise utilisation involontaire d'un objet consacré à Dieu, la réparation se faisait envers lui. Nous comprenons maintenant Isaïe 40, verset 2, où Dieu réconforte son peuple. Consolez mon peuple, écriez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le double de ses péchés. Cependant, à la suite de la réparation, il doit y avoir un sacrifice. Le voici dans Isaïe 53. Le serviteur de Dieu, au lieu d'un bélier, est conduit comme un agneau à l'abattoir, en faisant en faveur de ceux qui se sont perdus. Bien qu'il ait été exclu de la terre des vivants, entièrement consumé par le sacrifice qui ranime pour nous la flamme de l'espérance, le serviteur surgit de la mort, le pays d'où l'on ne revient pas, pour être exalté, voir sa descendance et prolonger ses jours. Réaliser l'impensable. Bien chers amis, le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous est tellement étonnant que même la Bible le croit impensable. Impensable parce que personne, il ne montrerait à aucun esprit l'idée de se sacrifier en faveur des hommes. Voici nous dit la Bible. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'était impensable avant que l'événement se fût tué. Généralement, si nous devons vraiment mourir pour une personne, nous mourons pour un homme de bien, une personne de haute valeur, de grande qualité, de haut rang. Mais mourir pour des impies, des voyous que nous sommes, non, aucun homme ne le ferait. Et pourtant, Dieu l'a fait. Ça, c'était impensable avant que le Seigneur l'y fait. Chrétien, Dieu a réalisé l'impensable afin de nous sauver, de nous racheter de nos iniquités. Et vous, et moi, qu'avons-nous déjà réalisé pour lui? En fait, on répond à un bienfait par un bienfait. On répond à un bien par un bien. On répond à une joie par de la joie. Et alors, Dieu nous a racheté du fardeau de nos péchés. C'est tout à fait naturel que nous nous soyons obligés à le louer, le bénir, le glorifier. Remarquez, j'ai dit, nous soyons obligés. Personne ne doit nous obliger. Personne ne devrait nous obliger. Mais malheureusement, peuple rétif et ingrat que nous sommes, nous n'avons cultivé aucune reconnaissance à notre Dieu pour le grand sacrifice accepté à notre faveur. Toutefois, à partir de maintenant, changeons d'attitude, changeons de chemin, changeons de cœur, répandons-nous, convertissons-nous. C'est la meilleure façon de répondre à l'amour de Dieu qui est tellement grand au point que lui-même s'est anéanti pour nous.
Sauvez-nous, Jésus,
Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grande commisération. Tu t'es fait homme pour sauver les hommes. Tu t'es anéanti pour nous tirer du néant. Tu t'es fait péché pour nous accorder la justice. Et aujourd'hui, nous voulons te louer, te bénir. En effet, si nous avons quelques bons sentiments pour toi, c'est encore grâce à toi, puisque le péché a envahi notre être et nous n'avons rien de bon en nous-mêmes. Cependant, Jésus-Christ a fait péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donne-nous donc de devenir cette justice de Dieu, irréprochable, marchant selon ta loi, vivant selon tes commandements et uniquement par la foi et la foi en toi. Aie pitié de nous, veuille mettre en nous l'Esprit Saint, de telle sorte que tes enfants reflètent toujours les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous te prions au nom de notre Sauveur et pour ta gloire. Amen.
Non.